8h55 minutes, c'est le temps de parler techno avec Mathieu Roy. Bonjour Mathieu.
Salut Louis.
Alors, on a fait beaucoup de Zoom au cours de l'année, la dernière année, le fameux logiciel là, qui permet de faire de la vidéoconférence. Alors là, on achète une compagnie de traduction.
Oui, c'est une petite compagnie allemande qui s'appelle Kites, K-I-T-E-S, qui est à l'origine justement une plateforme de traduction automatique en temps réel. Donc, les 12 chercheurs qui font partie de cette compagnie-là vont rejoindre l'équipe de Zoom. Donc, Zoom, comme tu l'as dit, ça a été abondamment utilisé pour travailler à distance, pour faire des présentations, des conférences ou encore juste des conversations ludiques ou familiales. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir avoir, avec la collaboration de cette nouvelle équipe, Kites, des conversations vraiment fluides, sans friction, indépendamment de la langue qui est parlée. C'est-à-dire qu'il va avoir une traduction automatique de la langue dans votre langue, donc en sous-titre. Ce n'est pas les seuls qui travaillent là-dessus, mais Zoom a fait des bénéfices, disons, assez importants au cours de la dernière année et demie, et c'est vraiment imposé comme plateforme de visioconférence. Mais... en fait, même si on utilise Teams, on dit « Ah, oh, on va se parler par Zoom », c'est presque, devenu un verbe.
C'est là. Ça. Mais tu es en train de me dire que, par exemple, je fais un Zoom avec, quelqu'un qui est un Allemand, mettons. Puis là, je vais discuter avec cette personne-là. Puis quand la personne va me parler, simultanément ou en temps réel, je vais avoir la traduction de ce qu'elle va me dire.
En sous-titre, oui, effectivement.
Ah, en sous-titre, OK.
En sous-titre. Mais évidemment, l'objectif, le Saint Graal, c'est d'arriver à faire de la traduction instantanée, d'avoir littéralement une voix qui va servir d'interprète en temps presque réel. Ça, Google l'a essayé. C'est pas encore au point, mais sur votre assistant Google en ce moment, vous pouvez demander à Google d'être votre interprète en italien. Et là, vous allez dire quelque chose en français. Google va prendre une légère pause, va le traduire en italien. Lorsqu'il entendra la personne en italien vous parler, il va prendre une petite pause, il va vous le traduire en français. C'est saccadé, mais ça marche assez bien, étonnamment. Ici, comme d'autres, on va vouloir afficher les sous-titres pour passer d'une langue à une autre et être capable de suivre les conversations. C'est hyper intéressant parce que même si la pandémie prend fin, je pense qu'il y a des habitudes qu'on va avoir prises qui vont rester. Et je pense que la visioconférence, pour la toute première fois, les employeurs ont vraiment déployé des moyens pour que ça fonctionne. Mmh. Et puis, on s'est rendu compte que certains meetings, effectivement, pouvaient être des courriels, mais d'autres pouvaient être aussi des rencontres à distance. Là.
OK. Bon, certains types d'accidents automobiles qui vont devoir être obligatoirement déclarés. On parle de voitures intelligentes, j'imagine?
Exactement. En fait, même avant d'être intelligente, les voitures assistées, les voitures qui ont un mode de conduite assisté, si vous avez magasiné une voiture dans les dernières années, on est un peu plus raffiné que le simple cruise control, le régulateur de vitesse. On parle aujourd'hui d'un adaptateur de vitesse, c'est-à-dire que si un véhicule se trouve devant vous, la voiture va ralentir automatiquement. Puis c'est encore vrai au niveau du maintien de la route, c'est-à-dire que certains véhicules vont vous garder entre les lignes qu'elle est capable que le véhicule est capable de détecter. Et là, c'est aux États-Unis, c'est l'Agence nationale de sécurité là-bas, qui est la NHTSA, qui a émis hier une ordonnance pour que les constructeurs automobiles signalent les accidents qui sont survenus sur leur véhicule où il y avait un système de conduite entièrement ou partiellement automatisé. Donc, on va rendre obligatoire la déclaration de ces accidents-là. On va avoir accès à des données qui vont permettre d'identifier d'où vient le problème. Et on pense aussi par le fait même que ça va inspirer la confiance dans le public en disant la sécurité des véhicules automatisés, ça préoccupe le gouvernement, ces agences-là, et peut-être faire accélérer aussi, bien sûr, si on est capable de partager les données à l'ensemble des constructeurs, faire accélérer ce genre d'assistance-là parce que ça marche somme toute assez bien, c'est pas encore parfait. Mais ce que moi, c'est un dossier qui me fascine, puis dès qu'il y a de l'actualité là-dessus, je m'y intéresse parce que ça touche à tellement d'aspects. Ouais.
Un des problèmes majeurs que je vois, entre autres, avec le fameux système là, qui te maintient entre les voies, là, pour l'avoir expérimenté, c'est qu'à un moment donné, tu roules, puis si, par exemple, sur la route, il survient, une situation où tu dois réagir rapidement et donner un coup de volant, mettons, à gauche pour éviter un obstacle ou quoi que ce soit, bien, la voiture, le système essaie de te garder dans la voie de droite. Alors, ça devient un peu, encombrant et peut-être un petit peu dangereux, je pense. Moi, j'ai tout enlevé ça sur le véhicule. J'ai tout mis ça à zéro.
En fait, c'est souvent dans des conditions, en ce moment, dans certaines conditions, ça fonctionne très bien, mais comme tu le dis, on dirait que on n'est pas prêt à passer à l'étape suivante alors que la technologie est prête, mais nos lois sont pas prêtes et c'est pas l'ensemble des véhicules qui ont encore la capacité d'être capable de faire ce genre de manœuvre-là. Je te dirais que c'est assez variable parce que moi, je trouve que sur mon véhicule, j'ai pas besoin de toucher à grand-chose pour déclencher le mode d'assistance de maintien entre les lignes, mais tout est encore, on dirait, à faire et gardez toujours en tête que la responsabilité, même si vous utilisez ce genre d'assistance à la conduite, revient toujours au conducteur. Si un jour la voiture a plus de volant, ça sera le constructeur qui aura sans doute la responsabilité en cas d'accident.
Mais c'est pas le
Mais en ce
cas.
moment, ben ça, c'est pas le cas du tout, là. Les agences nationales aux États-Unis veulent savoir s'il y a eu des accidents, donc des hospitalisations, des décès, mais aussi s'il y a eu un remorquage ou le déploiement d'un sac gonflable. Donc, on est vraiment en train d'essayer d'aller chercher le plus d'informations possible parce qu'on va devoir, écoute, légiférer rapidement parce que la technologie avance à vitesse grand V. Moi, je l'ai fait l'expérience sans aucun chauffeur derrière le volant à Las Vegas il y a 2 ans, puis j'ai été franchement impressionné et un peu troublé dans les 2, 3 premières minutes, je t'avouerai.
Exact. On a le temps pour une dernière, je te laisse choisir.
Ah, le robot, faut qu'on voit ça, là.
Ben, allons-y.
Ce matin, allez sur YouTube, tapez Boston Dynamics et c'est ces fameux robots. Hier, je te parlais d'une glacière sur roues robot, mais là, on dirait que les robots de Boston Dynamics l'ont pas pris. Ils ont dit, on va y montrer à Roy que nous autres, on est capable aussi de faire l'actualité techno. 7 robots Spot, donc les robots à 4 pattes, il y en a quelques-uns avec des bras articulés qui font une chorégraphie diablement précise. C'est évidemment un déploiement de ce que les robots sont capables de faire dans un environnement contrôlé, mais sachez que ces robots-là, en ce moment, sont utilisés en phase test, ou en tout cas, ils intéressent la NASA. Ils ont fait des tests en milieu très hostile, dans des grottes avec des reliefs qui sont changeants, pour que ces robots-là puissent travailler en équipe, un peu à la manière de la chorégraphie qu'ils font, c'est-à-dire que il y en a un qui peut faire de la cartographie d'environnement. Il pourrait donc scanner en 3D une grotte ou encore un relief. Les autres robots pourraient profiter de ces données là, tandis qu'un des robots va avoir un capteur différent pour prendre la pression atmosphérique, qualité de l'air, prise d'échantillons. Toutes sortes d'analyses sont possibles en fonction des capteurs que l'on met, mais ces robots-là sont absolument hallucinants. C'est pas de la science-fiction. Pomerleau, la firme d'ingénierie, en a déjà utilisé sur des projets ici au Québec.
Exactement. Alors, je t'invite à rester à l'écoute parce que dans quelques minutes, on va parler avec Jean Lapointe, qui est un ancien pilote professionnel. Il va nous parler de la compagnie Cathay Pacific, qui veut faire justement des vols avec un seul pilote, mais qui serait presque complètement géré par l'avion, par l'ordinateur de l'avion. Alors, si t'aimes la technologie, là, alors est-ce que tu embarquerais dans un avion qui est piloté par un ordinateur? C'est pas tout le monde qui dit oui. On va demander l'avis d'un expert, Jean Lapointe, ancien pilote professionnel. Alors, je t'invite à rester.
C'était de la science-fiction il n'y a pas si longtemps.
C'est ça, mais là, c'est la réalité.
Aïe, aïe, aïe.
Merci, Mathieu.
Merci, oui, bye-bye.
Salut.